Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Réticence en France contre le vaccin AstraZeneca. Comment renouer la confiance? Avant les débats, dans un instant, je vous propose d'écouter notre invité du jour dans Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Renaud Dingem Nayal, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes secrétaire général du Conseil national du patronat tchadien, CNPT. Quel regard porte le patronat sur la crise actuelle de succession au sommet de l'État après la mort du président Idriss Déby Itno?
Nous avons appris avec amertume le décès tragique du maréchal du Tchad, surtout que nous savions quelle était sa volonté de rendre opérationnel le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires que nous appelions de tous nos voeux et qu'il venait à peine de mettre en place et dont les membres ont été récemment installés. Et avec les récents événements, nous osons espérer que la transition qui se mettra en place mettra à ce Conseil présidentiel parmi ses priorités dans son agenda.
Et en ce moment, comment cette instabilité et cette incertitude affectent-elles les entreprises installées au Tchad?
Les entreprises installées au Tchad sont quelque peu habituées à ce genre de climat parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des remous politiques au niveau du Tchad. Toutefois, des précautions particulières sont prises. Des industries produisent normalement. Bah, nous avons foi à la capacité des acteurs politiques tchadiens ainsi que ceux de la société civile de vite s'asseoir autour d'une table pour en venir à un consensus au nom de l'intérêt général, l'intérêt supérieur de l'État. Nous avons toujours assuré le rôle de médiateur quand il y a eu des remous sociaux. Nous entendons offrir nos bons offices pour permettre que ce dialogue-là ait lieu dans la mesure où le vice-président du patronat, M. Ali Abbas Séti, est le président du Conseil national du dialogue social.
Donc vous êtes en train de dire que le Conseil national du patronat tchadien propose sa médiation pour rapprocher militaires et acteurs politiques et de la société civile?
Vous êtes sans ignorer que les syndicats, les travailleurs ont appelé...
Les travailleurs à rester à la maison pour des raisons de sécurité.
À rester à la maison pour des raisons de sécurité. Et pour qu'il y ait reprise du travail, il va falloir que le Conseil national du dialogue social présidé par M. Ali Abbas Séti, qui est le vice-président du patronat, prenne son bâton de commandement pour dialoguer avec les travailleurs et pour dialoguer également avec les nouvelles autorités du pays pour que sur le front social, les nuages se dissipent.
Vous le disiez à l'instant, les syndicats qui ont appelé les travailleurs à rester à la maison pour des raisons de sécurité, comment cela affecte-t-il la production des entreprises?
Bien évidemment, lorsqu'il y a grève, cela se ressent tout de suite au niveau des entreprises. Fort heureusement, pour l'instant, les travailleurs qui sont appelés à rester à la maison par les syndicats sont plutôt les fonctionnaires. Au niveau du secteur privé, les travailleurs continuent à vaquer librement à leur occupation.
Et quel est l'état d'esprit des patrons d'entreprises au Tchad aujourd'hui et quelles sont leurs principales craintes?
Nous sommes toujours positionnés en tant qu'organisation patronale comme une force de proposition. Bien avant cette crise, nous avions commis un livre blanc dont les recommandations demeurent d'actualité. Je pense que nous allons continuer dans la même lancée. Nous sommes toujours disposés à faire des propositions concrètes aux nouvelles autorités de la transition pour que les politiques qui seront mises en œuvre puissent permettre au secteur privé et formel déjà embryonnaire de pouvoir se développer pour aider le pays dans la mise en œuvre de sa politique de développement socio-économique.
La famille Déby, selon diverses sources tchadiennes, est très présente dans le secteur économique. Cette situation a-t-elle eu des conséquences sur l'activité des autres opérateurs économiques ?
Je ne pense pas que les membres de la famille présidentielle s'intéressent aux affaires. Cela ne peut être qu'une bonne chose, dans la mesure où, en expérimentant l'exercice des affaires, eux-mêmes se confrontent à un certain nombre de difficultés et sont considérés plus ou moins comme des ambassadeurs du patronat pour pouvoir plaider et pour qu'il y ait amélioration du climat des affaires. L'un des fils du président est dans le secteur de la production de l'eau minérale. N'empêche que les brasseries du Tchad qui appartiennent au groupe Castel produisent également de l'eau minérale. Et toutes ces eaux sont sur le marché et la concurrence est libre.
Renaud Dingemnaï, merci beaucoup.
Merci, madame.
Secrétaire général du Conseil national du patronat tchadien CNPT, N'Djamena.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue à vous qui nous écoutez. Vaccin anti-Covid AstraZeneca, du plomb dans l'aile, que faire? C'est notre débat du jour avec quatre invités. Professeur Georges Alfred Kizebo, représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Professeur Kizebo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous de Conakry, la capitale guinéenne. Patrick Pelou est médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF. Bonsoir, monsieur Pelou. Allô, monsieur Pelou, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir de Dakar au Sénégal, docteur El Hadj Mamadou Diaye, qui est le directeur de la prévention, spécialiste en santé publique et expert en vaccinologie pratique. Bonsoir, docteur Diaye.
Bonsoir, madame.
Et notre médecin est avec nous, docteur Guy Alouvor. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous, chirurgien et médecin expert médical à Paris. Je vais commencer par vous, docteur Pelou. Alors, il y a une conjonction de facteurs qui explique la méfiance à l'égard de AstraZeneca, notamment ici en France. Mais quelles sont les principales causes, d'après vous, que vous disent très souvent les patients? Quels arguments ils vous présentent pour refuser de se faire administrer de ce vaccin?
Oh, c'est des arguments parce qu'ils ont entendu dans les médias et des conséquences du vaccin, mais qui sont rarissimes, mais comme, si vous voulez, ils regardent en boucle les chaînes d'infos, ils ont une espèce d'hypnose par rapport à des informations qui sont sorties de leur contexte. Et du coup, ça a fait une rumeur qui est partie et qui est alimentée par justement tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, ce vaccin a fini par faire peur. Voilà. Mais ce qu'on dit, et les arguments qu'on a, les arguments médicaux qu'on a pour expliquer que ce vaccin est tout à fait valable, sont combattus par le fait que... Le variant sud-africain, l'AstraZeneca, ne marche que dans 20% des cas. Donc, l'Afrique du Sud l'a retiré.
Le Danemark aussi.
Ils ont commencé à le retirer.
L'a abandonné.
Et puis, il ne marchait pas non plus sur le variant brésilien. Donc, du coup, ça donne des arguments à ceux qui combattent les vaccins, qui sont souvent des gens pas très fréquentables scientifiquement. Et du coup, ce vaccin, il y a un véritable rejet. Et ça pose un grave problème, parce qu'à l'heure actuelle, la France est en retard sur une vaccination de masse. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les malades qu'on prend en charge, les malades graves, les malades qu'on met en réanimation, n'ont jamais été vaccinés. Donc ce qui prouve, si vous voulez, que si vous êtes vacciné, vous ne faites pas de maladie grave et vous êtes protégé. Mais ça, quand vous regardez ce qui s'est passé, même la vaccination massive qu'il y a eu... en Angleterre. Elle a entraîné une baisse incroyable et merveilleuse de la mortalité. Et c'est pour ça qu'il faut vanter les mérites du vaccin. Mais là,
mais en même temps, M. Pelloux, vous-même, vous venez de dire que, avec les variants, notamment sud-africains et brésiliens, ce vaccin n'est efficace qu'à 20%. Donc, au-delà de ce que vous attribuez comme cause, c'est-à-dire au-delà du fait qu'il y a des informations pas toujours vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux et qui découragent les uns et les autres, il y a aussi cette réalité qui est que le vaccin n'est pas tout à fait efficace.
Mais il n'est pas tout à fait efficace, mais tout est dans le pas tout à fait efficace, puisque même si vous vaccinez et que vous tombez sur une souche pour laquelle le vaccin ne va pas forcément fonctionner, vous ne ferez pas de maladie gravissime. Vous voyez, donc c'est une question de bénéfice et de risque. Donc de toute façon, pour l'instant, ça vaut quand même le coup de se vacciner avec l'AstraZeneca. Vous avez plus de risques de faire des maladies thromboemboliques en fumant, en prenant la contraception orale, en ne soignant pas des maladies cardiovasculaires qu'en prenant le vaccin AstraZeneca.
Merci, M. Pelloux. Professeur Kizerbo, est-ce que c'est pour les mêmes raisons que les Africains, en général, se montrent un peu réticents à l'égard des vaccins, et notamment, bien sûr, AstraZeneca?
Non, traditionnellement, les Africains ne sont pas en grande majorité réticents au vaccin, en particulier les vaccinations de routine qui concernent les cibles infanto-juvéniles. Même pour la COVID-19, certains sondages dans plusieurs pays indiquent que bon nombre d'adultes, une grande proportion des adultes jeunes ou plus âgés, sont prêts à se faire vacciner. Donc, cette infodémie qui est en fait la diffusion de rumeurs à vitesse grand V sur les réseaux sociaux est l'un des obstacles qu'il faut surmonter en fait pour pouvoir continuer une lutte fondée sur des évidences scientifiques et sur des faits. Un vaccin a deux caractéristiques principales, c'est son efficacité et son innocuité. C'est important de discuter des risques des vaccins ou de tout autre produit de santé qui ne sont jamais nuls, mais il faut communiquer de façon positive sur les bénéfices. Et cela a été dit par celui qui a parlé avant moi, c'est le bénéfice en termes de réduction du risque de forme sévère ou de faire la maladie tout simplement. Et même il y a des évidences qui s'accumulent sur l'impact de la vaccination sur la transmission aussi qui vont s'accumuler au fur et à mesure.
Merci.
Je voudrais
beaucoup
revenir sur la question des variants. Les études qui ont été faites en Afrique du Sud, je pense, ont été faites de façon préliminaire. Et il faut savoir que ces études-là méritent d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et sur une seule étude, il n'était pas évident, en fait, que l'impact du virus, du vaccin AstraZeneca sur le variant sud-africain puisse être remis en cause complètement. C'est une étude avec ses résultats qui doit être remise en perspective donc dans ce cadre-là.
Merci. Merci pour ce Kizerbo. Alors, docteur Diaye, on vient d'entendre les précédents intervenants dire que oui, la communication sur AstraZeneca est polluée par des informations pas toujours vérifiées et qu'il faut continuer à miser sur la communication. Je suppose que c'est ce que vous faites au Sénégal. Mais il y a quelques jours, il y a eu une rumeur, une folle rumeur sur des cas de décès de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca.
Merci beaucoup. Bon, c'est exact qu'il faudra continuer à communiquer sur la vaccination globalement AstraZeneca et sur les autres vaccins d'ailleurs. Il faut savoir que les détracteurs de la vaccination ont emboîté ou ont utilisé une brèche à travers ce qui était sorti ou ce qui a été véhiculé récemment, notamment en France et certains pays de l'Union européenne par rapport au vaccin AstraZeneca. Ils ont donc
ils sont engouffrés dans cette brèche pour dire que c'est le vaccin AstraZeneca, il n'est pas fiable, il est pourvoyeur d'embolie, de thrombose, etc., etc. Mais ce sont des gens surtout, ce sont des réseaux sociaux surtout, qui depuis le début d'ailleurs, détraquaient, envoyaient des messages détracteurs à la vaccination globalement, de manière indiscriminée, que ce soit AstraZeneca, que ça sera peut-être...
Oui, Moderna, cette réalité-là est là, docteur Ndiaye. J'aimerais qu'en quelques mots, vous dites comment est-ce que vous avez réajusté votre communication face à cette rumeur concernant...
Par rapport à cette rumeur, c'est toujours de dire que pratiquement toutes les rumeurs qui sont parvenues, ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées en réalité. Et même au Sénégal, où les gens ont parlé de certains décès qui étaient imputés, si vous voulez, à la vaccination, il s'est trouvé que nous avons déjà un comité d'experts, un comité de pharmacovigilance qui, de manière régulière, se réunit et assure fait la classification de tout ce qui est effet secondaire qui a été rapporté. Et en réalité, il n'y avait pas de lien de cause à effet par rapport à ça. Et que nous vaccinions, il faut que les gens comprennent, là aussi, la communication a été axée sur ça, que nous avons vacciné de manière délibérée en priorité des cibles qui étaient porteuses de comorbidité, donc qui étaient sujets à faire des pathologies quelconques, même si on les laissait au gré du hasard sans se vacciner, c'est des populations qui allaient faire leur AVC peut-être, ou leur thrombose, etc., etc. Voilà donc comment la communication a été prolongée pour encore une fois prouver que ce sont surtout des détracteurs de la vaccination globalement et qui peut-être ont utilisé aujourd'hui ce vaccin et qui
Merci.
Peut-être utiliseront un autre.
Merci beaucoup, docteur Ndiaye. Je vous prie, docteur Guy Alouvor, de me laisser donner la parole encore au docteur Pelou qui va nous quitter dans un instant. Comme ça, vous aurez le temps d'intervenir longuement, je vous promets, docteur Alouvor. Alors, docteur Pelou, il y a le gouvernement qui essaye d'envisager une stratégie qui consisterait à impliquer les personnalités pour rassurer et convaincre. Est-ce que vous avez foi en cette stratégie?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les seules personnalités qui sont à même de rassurer les gens qui doutent, c'est de faire vacciner la classe politique. De faire vacciner...
Le ministre de la Santé l'a fait, M. Véran, Olivier Véran.
Il faut vacciner tous les députés, il faut vacciner tous les sénateurs, vacciner des stars du musical ou de la chanson ou du cinéma, ça sert à rien. Plus. On n'est pas à ce stade-là. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Et puis d'autre part, si vous voulez, il faut que le vaccin soit accessible parce que vous avez beaucoup de monde. On oublie d'en parler.
Mais justement, pourquoi est-ce que ces personnalités politiques ne se sont pas encore prêtées au jeu? On l'a vu aux États-Unis au début de la campagne, le président Biden lui-même le faire. On l'a vu Benjamin Netanyahou en Israël, le premier ministre britannique. Pourquoi pas en France?
Parce qu'en France, ils ont voulu respecter les critères qui avaient été donnés par le ministère. Ils n'ont pas voulu être discrédités en disant qu'ils avaient des passe-droits. Donc du coup, ils se sont fendus, puisqu'on a commencé à vacciner les personnes les plus âgées, les plus de 70 ans. Ils ont dit, nous, on ne se vaccine pas parce qu'on n'a pas 70 ans et on n'est pas dans les maisons.
Mais avec le recul, finalement, est-ce qu'on revient à la stratégie des autres pays où la vaccination a plus ou moins marché, ces pays dont je viens de parler?
Non, ça a été très mal fait et c'est n'importe quoi. Et on s'est trompé, on a un rythme qui est trop lent en France, on est à la traîne on est dans les derniers pays au monde à vacciner, et ça cultive, ce que disaient les précédents intervenants est très juste, ça cultive les rumeurs. Comme d'un coup la classe politique ne se vaccine pas, eh bien on ne se vaccine pas.
Merci beaucoup, docteur Pelou, d'avoir participé à cette émission. Et vous avez pris d'autres engagements. Vous allez donc nous quitter. Et on espère vous voir ou vous entendre dans nos prochaines émissions sur la santé. Et on marque une très, très courte pause, messieurs. Et on vous retrouve dans un instant pour poursuivre le débat.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment lever la réticence et même la peur sur le vaccin anti-Covid AstraZeneca? Comment renouer la confiance? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS en Guinée à Conakry. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et expert en vaccinologie pratique à Dakar au Sénégal, et avec nous ici à Paris, docteur Guy Alovor, chirurgien, médecin, expert médical. Alors, docteur Alovor, vous avez entendu le docteur Pelou avant de partir, disait que la France, d'après lui, a quelque peu raté sa campagne de vaccination parce qu'elle n'a pas pris au départ la bonne stratégie, celle de faire vacciner les personnalités politiques. Est-ce que c'est votre avis aussi?
Bien. Avant toute chose, il faut rappeler une chose, c'est que la vaccination dans l'arsenal thérapeutique reste de tout intérêt. Il ne faut jamais l'oublier, les vaccins ont rendu de grands services à l'humanité. C'est un fait certain. Pour ce qui concerne le Covid et la vaccination pour tous les vaccins en cours, les essais, il faut le rappeler, sont en cours. Cela veut dire quoi? Que les produits ne sont pas encore suffisamment cernés pour savoir leur tolérance, les indications, les effets secondaires, leur exhaustivité avant de mettre les produits sur le marché pour un usage à grande échelle. D'ailleurs, sur le plan administratif, ce n'est pas une autorisation de mise sur le marché. Il s'agit d'une autorisation de mise sur le marché dite conditionnelle. D'accord ? Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a crise de confiance vis-à-vis notamment de l'AstraZeneca, puisque c'est de cela que nous parlons ? Souvenez-vous, au début, on disait que c'est un vaccin qui n'est pas très efficace chez les personnes âgées et donc on le réservait aux personnes plus jeunes. Très rapidement, on s'est aperçu des effets secondaires avec des décès chez des personnes assez jeunes, jusque vers l'âge de... On a perdu même un interne en médecine de 24 ans. Dès lors, les autorités sanitaires, en l'occurrence au niveau de l'Europe, l'agence...
européenne de médicaments. Allô? C'est dommage, on a perdu le docteur Alovor qui développait son argumentaire. On va essayer de le retrouver, évidemment. Docteur, professeur Kizerbo, est-ce que vous estimez qu'au stade où on en est aujourd'hui, il y a encore un moyen, à travers la communication que vous semblez privilégier, pour renouer la confiance? Le docteur Alovor parlait de cette crise de confiance qui semble forte.
Oui, je pense que l'engagement de la communauté, l'engagement des populations bénéficiaires est un des piliers de l'action en santé publique. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Donc le travail d'explication, le travail pédagogique ou même de simplification des concepts pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit, de dire que le vaccin est un bien commun, c'est vrai, de dire que les vaccins contre la COVID ont permis déjà à certaines sociétés de voir des impacts massifs. On a vu des impacts massifs dans les maisons de retraite pour les personnes âgées. On voit certains pays...
Même si on ignore encore pour combien de temps, oui. Professeur Kizerbo. On ignore pour combien de temps ces personnes sont immunisées.
Il faut s'en réjouir. Pourquoi toujours voir le côté de un ou
je ne vois rien, je relève juste les répliques que les uns et les autres apportent lorsque, des objections qu'on entend souvent quand on assure sur l'efficacité du vaccin.
Une forte mortalité a enregistré des jours avec zéro décès. Ça, c'est indéniable. À quoi ça peut être dû, sauf à leur campagne vigoureuse de vaccination? L'Israël est en train de se réouvrir.
Oui, on parle d'Israël, des États-Unis.
Voilà, mais c'est ça qu'il faut rechercher. C'était cette immunité collective qui va permettre de sortir de cette crise-là. Le vaccin n'est pas une panacée, mais c'est un pilier de la riposte à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que l'Union européenne intente pratiquement des actions envers les fabricants pour avoir plus de vaccins, y compris le AstraZeneca? C'est parce que c'est une des clés du rebond de la société face à cette crise qui est une pandémie qu'on n'a pas vue depuis un centenaire.
Merci.
Donc, je pense qu'il faut savoir que 34 pays en Afrique ont déjà reçu les vaccins COVAX et que les vaccinations sont en cours. Donc, on n'est pas au point zéro. Il faut continuer les actions et continuer la communication positive. Et vous, les médias, vous avez un rôle essentiel à jouer à côté des experts et des techniciens que nous sommes.
Merci, professeur Kizerbo. Nous avons retrouvé le docteur Guy Alovor, qui va pouvoir conclure ses propos.
J'ai eu une interruption de mon réseau.
Oui, allez-y,
voilà,
s'il vous plaît.
Donc, j'expliquais la situation un petit peu de tâtonnement et d'improvisation qu'on a connue au début de cette campagne avec l'AstraZeneca, où on disait que chez les personnes âgées, ça ne donnait pas suffisamment d'immunisation et qu'il faut cibler plus la population jeune. Mais quand des accidents thrombotiques ont commencé, l'Agence européenne du médicament s'est prononcée en disant qu'il s'agit d'un vaccin efficace et sûr. Je ne sais pas sur quoi il se basait pour tenir de telles affirmations.
Elle avait commencé à dire qu'il n'y a rien qui établit de lien entre cette thrombose et le vaccin. C'est après qu'elle s'est ravisée.
Quelques semaines après, absolument, ils se sont repris, ils ont revu leur position en disant que le vaccin est efficace, mais cette fois-ci, l'élément de langage sûr a été retiré dans ce que j'appelle le mantra de l'Agence européenne du médicament. Et comme les accidents se poursuivent, maintenant on a essayé de retrouver un petit peu comment rattraper le coup. Et là, chaque pays a pris ses responsabilités. Certains ont définitivement arrêté avec l'AstraZeneca. Et la France, qui a des stocks, a repositionné ça pour des personnes, cette fois-ci, d'âge supérieur à 55 ans. Vous voyez un petit peu, on est parti de moins 65 ans. Les jeunes ont eu des problèmes et on est retourné à plus de 55 ans.
D'accord, docteur Alovor, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas seulement AstraZeneca, il y a un autre vaccin.
Je finis ce détail-là qui est important. Et dans ces conditions, on est allé même jusqu'à des improvisations où les gens qui avaient reçu initialement l'AstraZeneca sont conviés à recevoir un autre type de vaccin avec une autre technologie, soit Pfizer ou Moderna, qui sont des vaccins à ARN. D'ailleurs, ils sont tous des vaccins géniques, hein, puisque l'AstraZeneca, ce n'est qu'un autre virus qui est utilisé comme cheval de Troie, si vous voulez, un vecteur viral, pour apporter du matériel génétique dans la cellule du patient afin de fabriquer les protéines contre lesquelles...
Mais également, docteur Alovor, c'est vrai que vous relevez des couacs de communication, des tâtonnements ou des questions sans réponse, mais si on ne s'attarde que sur ces aspects négatifs, est-ce qu'on va arriver vraiment à cette immunité collective que souhaitent les autorités des pays respectifs? Je pose la question, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le vaccin Johnson & Johnson qui commence aussi à susciter quelques inquiétudes.
Absolument. Eh bien, le problème, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la pharmacologie qu'un médicament est mis au point et commence à être utilisé à large échelle sans que les études de son test ne soient finies et qu'on en connaisse toutes les conséquences. Ça ne s'est jamais fait auparavant.
Est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'ampleur de la pandémie?
Qu'il nous donne un exemple d'un médicament qu'on a mis sur le marché avant que les essais cliniques et trois phases soient aboutis.
Merci, docteur Lou.
La phase de l'ECA ne sera pas terminée en essai avant fin 2022. on a commencé déjà à l'utiliser dans le même niveau, vous voyez.
Merci. Docteur Ndiaye, sur ces éléments relevés par le docteur Alovor, qui justifierait peut-être cette peur, cette rupture de confiance?
Oui, il y a ces éléments, mais je trouve qu'on a beaucoup amplifié, c'est trop médiatisé. Tout est fait, soi-disant, supposé négatif par rapport au vaccin et hyper médiatisé par rapport à l'effet positif en réalité. Et que le monde étant devenu un village...
Donc vous trouvez que c'est la communication autour de ce qui ne va pas sur ce vaccin est disproportionnée?
Elle est disproportionnée par rapport à ce qui va. Parce que les gens n'ont jamais mis l'accent d'abord sur combien de personnes sont vaccinées dans le monde à un moment donné. On est toujours en train de voir, il y a une personne qui a fait une thrombose ou un AVC quelque part, etc. Mais on ne s'est jamais amusé à dire que tant de personnes ont reçu tant de doses d'AstraZeneca et qu'il n'y a pas un effet majeur qui a été signalé. Voilà, donc c'est comme si on dirait qu'il y a une guerre autour des aspects négatifs qu'il faut faire et qu'il faut a priori enfoncer un type de vaccin, dont le vaccin qui est le vaccin AstraZeneca. Voilà donc ceci. Mais je trouve...
Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Ndia? Est-ce que vous pourriez être plus précis qu'il y aurait une concurrence entre les industries pharmaceutiques pour saboter un vaccin et en privilégier un autre?
C'est comme si, parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est seulement ce type de vaccin. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres, mais ce vaccin, qu'est-ce qui fait que les effets négatifs sont toujours mis en avant par rapport aux effets positifs? Ça, c'est la question qu'on se pose. Je ne peux pas dire qui est derrière, mais en tout cas, tout porte comme à le faire croire que c'est ça.
Merci.
Mais revenant sur le fait que ce vaccin, c'est vrai, il faut continuer la communication, mais également la méfiance des populations finira par disparaître compte tenu de ce qu'on voit d'abord, parce qu'encore une fois, la vérité finira par
Est-ce qu'au Sénégal, vous avez des stocks de AstraZeneca ou d'autres vaccins qui manquent de candidats?
Non, actuellement, nous avions que pratiquement de l'AstraZeneca. On avait un peu de Sinopharm que l'État avait pu, en tout cas, acheter au début. Mais ces vaccins étant terminés, nous avons actuellement que de l'AstraZeneca qui nous est parvenu de l'initiative COVAX.
Merci.
Bien sûr, on attend d'autres types de vaccins peut-être dans les prochaines semaines ou mois, mais c'est essentiellement de l'AstraZeneca que nous avons et que nous utilisons actuellement dans le pays et qui, pratiquement, malgré ces rumeurs, etc., est quand même accepté et que, bien sûr, nous poursuivons, nous soutenons cette campagne avec une communication qui est positive.
Merci beaucoup. Et professeur Kizerbo, en deux mots, quelle est la situation en Guinée?
Allô?
Oui, qu'en est-il de la méfiance en Guinée? Est-ce qu'elle est moins prononcée que, comme le docteur Ndiaye vient de le dire, au Sénégal?
Oui, la Guinée a un plan d'introduction des vaccins contre la COVID et a eu des allocations de divers vaccins, y compris à travers la facilité COVAX. Et la vaccination avait commencé avec des vaccins procurés par le gouvernement à travers des accords bilatéraux. Les vaccins de la facilité COVAX et ceux procurés par l'Union africaine sont arrivés. Et donc le plan d'introduction est en cours de décentralisation au niveau des régions. Il y a eu des rumeurs comme partout en Guinée. Et il y a aussi des campagnes qui visent à mieux expliquer l'effet bénéfique des vaccins, la nécessité de protéger les populations vulnérables, les personnes avec des comorbidités, les personnes âgées, les agents de réponse de première ligne, y compris les agents de santé, dont une bonne part ont été déjà vaccinés. Donc la vaccination va se poursuivre. Je voudrais corriger quelque chose par rapport...
Pardon, professeur Kizerbo, on va vous donner la parole tout à l'heure lorsqu'on va attaquer la dernière partie sur comment relever ces défis que nous avons évoqués tout à l'heure et surtout relancer ce vaccin, renouer la confiance, et ce sera dans quelques instants.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir du vaccin anti-Covid AstraZeneca qui souffre d'un déficit de confiance. Comment lever les craintes? Et nous en parlons avec trois invités, Dr Guy Alouvor, chirurgien, médecin expert médical à Paris, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, docteur en médecine, expert en vaccinologie pratique à Dakar au Sénégal, et en ligne de Conakry, la capitale guinéenne, professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'OMS. Professeur Kizerbo, vous vouliez corriger quelque chose qui a été dit avant de poursuivre sur comment renouer la confiance?
Oui, je voudrais juste affirmer que tous les vaccins qui sont procurés à travers la facilité globale COVAX ont passé les trois phases des essais cliniques expérimentaux. En matière de vaccinologie, on considère que l'utilisation dans la population générale est une autre phase d'examen des vaccins, et je suis d'accord avec le docteur qui est intervenu tout à l'heure pour dire que la pharmacovigilance se poursuit même lorsque les vaccins sont utilisés à large échelle. Mais toutes les précautions rigoureuses sont prises lors des trois phases d'essais cliniques et bien au-delà pour assurer que le bénéfice dépasse de manière exponentielle tout risque qui pourrait être lié à la vaccination. Donc, je répète, ce sont des biens communs qui sont examinés par des experts indépendants et qui sont mis sur le marché pour protéger les populations. Et c'est ce message positif qu'il faut faire passer à la population.
Merci beaucoup, professeur Kizerbo. Du coup, on va revenir à vous dans quelques instants sur votre proposition pour lever des doutes. Je redonne la parole au docteur Guy Alouvor. Ici en France, un sondage mené par le journal Le Figaro la semaine dernière indique que seuls 55% des Français de 18 et 24 ans comptent se faire vacciner contre 75% pour les plus de 60 ans. Du coup, ma question est celle-ci. Comment faire en sorte que plus de Français acceptent de se faire vacciner, pas seulement avec AstraZeneca, mais de se faire vacciner avec tous les vaccins pour se protéger de la COVID-19? Qu'est-ce qu'il faut corriger?
Alors, il faut que cette impression un peu désagréable de tâtonnement et d'improvisation cesse, à mon humble avis. Et pour s'y faire, la plus simple façon de procéder, c'est d'observer un moratoire et attendre les résultats définitifs des essais.
Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Alouvor? Qu'on suspende toutes les vaccinations, toutes les campagnes de vaccination et qu'on attende...
puisque les essais... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va utiliser un médicament qui n'a pas fini d'être testé. Je m'inscris en faux contre ce qu'a dit tout à l'heure le professeur en disant que tous les vaccins ont passé les différentes phases. Ah non, c'est pas vrai.
D'autre mais en part, même temps, il a évoqué aussi les cas de la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis.
Les chiffres sont disponibles, les chiffres de nombre d'individus, de doses distribuées et le nombre d'accidents. Les chiffres sont disponibles. On l'évalue actuellement à 1 pour 100 000 cas. Mais il ne s'agit pas de petites phlébites suite à des pilules ou à la cigarette. On parle de thromboses veineuses au niveau des sinus cérébraux et au niveau des
vaisseaux. Dont certains en sont morts.
Ce type de situation ne se voit que dans les empoisonnements du sang et dans les morsures des serpents venimeux d'Afrique.
Mais excusez-moi, docteur Alouvor, je voulais juste très rapidement, il a mentionné les exemples de la Grande-Bretagne, l'Israël, où les vaccinations ont eu lieu et ont permis de déconfiner. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun médicament, pour l'instant, homologué, en tout cas par l'OMS, pour soigner cette COVID-19. Si on suspend la campagne de vaccination, alors que propose-t-on aux uns aux autres?
Oui, mais sauf que l'OMS a homologué des vaccins qui donnent des accidents, pendant que elle refuse d'homologuer des médicaments qu'on utilise depuis des décennies et qui n'ont montré aucun accident. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des essais au moins? Vous voyez ?
Merci.
Il y a un petit peu du deux poids, deux mesures. On jure tout par les vaccins. On n'a jamais réglé le problème d'une épidémie en plein milieu du guet avec uniquement une seule stratégie, c'est-à-dire celle des vaccins.
Merci, docteur.
Les vaccins, c'est pour éviter qu'on tombe malade. Mais une fois que vous êtes tombé malade, c'est pas à ce moment-là qu'on va vous vacciner. Actuellement, merci. Nous avons des malades sous les bras, il faut les traiter, il faut les soigner.
Merci, docteur Alouvois. En deux mots, docteur Ndiaye, comment lever toutes les inquiétudes et renouer la confiance avec AstraZeneca et peut-être plus globalement les autres vaccins contre Covid?
Nous, nous pensons qu'il n'y a rien d'autre que de persévérer dans la communication, de ne pas baisser la garde pour les, face aux détracteurs de la vaccination.
Encore donc, une pas fois, question de suspendre la vaccination, pas, comme vient de le dire le docteur Alouvois? Pour relancer la confiance?
Il n'est pas question de suspendre la vaccination. On ne peut pas venir à bout d'une épidémie sans qu'il puisse y avoir des vaccins efficaces. Ce n'est pas possible. C'est une théorie qui ne marchera pas. Il faudra mettre l'accent sur la vaccination, sur la communication, encore une fois. Ce qui se fait, ce n'est pas une détraction par rapport au vaccin AstraZeneca.
Mais en même temps, les couacs cumulés et les incertitudes cumulées, c'est peut-être ça qui fait fuir aussi la plupart des personnes.
Oui, c'est ça. Mais moi, je mets ça plutôt sur le compte d'une campagne de dénigrement de la vaccination globale que de la vaccination contre les vaccins contre la COVID-19. C'est plutôt une idée ancrée autour des détracteurs de la vaccination globalement. Ils sont adossés à cette théorie qu'ils veulent faire marcher et non par rapport au vaccin contre la COVID-19. C'est toujours le soubassement, c'est de revenir à des anti-vaccinations. C'est ça en réalité la chose qu'il faudra dire réellement. C'est le soubassement qui n'est pas dit, c'est le non-dit par rapport à ce qui se passe actuellement.
Merci. Docteur, professeur Kizerbo, vous voulez réagir forcément, j'imagine, à ce que vient de dire le docteur Louvor.
Non, je vais
en une minute.
Je vais juste réaffirmer que les vaccins de la facilité COVAX ont tous eu une autorisation d'utilisation en urgence du comité d'experts de l'OMS.
Le docteur Louvor vous a contredit, il dit que c'est pas exact. 3.
Et c'est vrai, et la documentation est disponible, je peux vous la partager à vous tous. Ça, c'est indéniable. Deuxièmement, effectivement, les théories complotistes, on peut toujours les véhiculer. Mais ce qui est plus.
Mais est-ce que ce qu'il vient de dire relève d'une théorie scientifique ou bien des inquiétudes, d'une théorie complotiste ou des inquiétudes scientifiques?
C'est un avis.
Lui, il parle respecte. Plutôt de la. Il semble estimer qu'on a mis la charrue avant les bœufs et qu'on n'a pas pris toutes les précautions habituelles avant d'autoriser ce vaccin. C'est ce que j'ai cru comprendre de ses propos.
Je vous répète que l'autorisation d'utilisation en urgence de vaccins. Et les impacts de la vaccination sont déjà clairs dans les pays qui l'ont prise au sérieux. Je n'ai pas besoin de répéter ce qui se passe dans plusieurs pays qui ont vacciné et qui voient l'impact aujourd'hui sur la mortalité et la morbidité. On peut citer beaucoup d'autres exemples. Hein. Les maladies qui ont été éradiquées par la vaccination, il y en a. Les maladies qui ont pratiquement été éliminées ou réduites à des effets mineurs en matière de santé publique, il y en a. Donc, je crois que ça dépend de quoi, sur quoi on se focalise. Ce qui est important, c'est de rejoindre les populations dans leur désir d'être protégées. Une enquête en Guinée a montré que 80% de la population est prête à se faire vacciner. Il faut répondre à ce besoin-là. C'est une demande qui est réelle.
Excusez-moi, professeur Kizerbo, mais on l'a vu pour une autre maladie comme Ebola, où les populations ont pourchassé carrément les personnes qui sont venues les vacciner contre Ebola. Donc...
Oui, mais vous racontez toujours les histoires qui sont tragiques. Actuellement, il y a plein de populations qui sont vaccinées. L'épidémie actuellement d'Ebola a été circonscrite dans son foyer initial. Il y a eu des événements tragiques en 2014 parce que les gens avaient circulé des rumeurs. C'est pourquoi il faut combattre les rumeurs. Ça mène à des conséquences tragiques, en fait.
Merci beaucoup.
Il faut dire sur des faits scientifiques et avoir une approche factuelle et positive, et considérer ces éléments comme des biens communs pour toute l'humanité.
Merci beaucoup, professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant de l'OMS en Guinée. Merci à vous, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention à Dakar au Sénégal. Merci au docteur Guy Alouvor, chirurgien médecin expert médical à Dakar à Paris.